Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Deuxième partie sur le thème Dieu parle. Aujourd'hui, en 2004, Dieu s'adresse à nous. Et il a des choses à nous dire. Alors, on a vu pas mal de choses. On a vu la dernière fois la naissance de la foi. Nous avions vu également dimanche que nous avions besoin que Dieu nous parle. C'était et c'est, cela demeure, quelque chose de vital. Et puis, troisième point, nous avons commencé à voir des situations où Dieu a commencé à parler à des hommes ou à des femmes. Et inévitablement, quand Dieu parle, cela produit une action. Et nous avons vu que dans la vie de différentes personnes, nous avons pris l'exemple de Agar, dimanche dernier, et nous avons vu de quelle manière Dieu s'est adressé à elle et de quelle façon il a pu l'encourager. On continue ? Avec quelques exemples. Ce soir, on va s'arrêter quelques instants sur Daniel. Le prophète Daniel, lui, a eu une vision de la part de Dieu. Et à cause de la vision qu'il a eue, cela l'a plongé dans un effroi terrible. Ça l'a saisi de crainte, de peur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a commencé à se rendre compte de ce qui allait arriver. Voilà ce qui est dit dans chapitre 10 au verset 15. « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Comme le serviteur de mon Seigneur, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit : Ne crains rien. « Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. » Cet homme était un homme de Dieu. Il savait ce qu'était que d'être en contact avec Dieu, mais il savait aussi lorsque Dieu s'adressait à lui et lorsque Dieu lui parlait. Et dans la situation là dans laquelle il se trouve, il est saisi d'effroi. La frayeur est en train vraiment de le saisir. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de lui montrer ce qu'il va accomplir, ce qu'il va faire. Alors son cœur commence à être saisi, et en quelques instants, il perd ses forces, il perd tous ses moyens. Ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation ou confronté dans une certaine circonstance? À ce moment-là, vous perdez tous vos moyens. Vous ne pouvez plus réagir, vous ne pouvez plus avoir une réaction. Vous perdez vos forces, vous êtes là et vous ne savez plus comment faut faire. Ça a pu peut-être arriver à quelques-uns d'entre nous. Cet exemple nous montre que parfois Dieu pourra nous parler. Dieu pourra nous indiquer un chemin, il pourra nous indiquer une direction. Il nous indiquera la décision qu'il faudra prendre. Mais en analysant, en réfléchissant et en pensant humainement à la décision que Dieu est en train de nous demander de prendre, nous, humainement, on va réaliser que cette décision, elle nous dépasse complètement. Et elle va te saisir d'effroi. Elle va même te saisir de crainte. Ça va te procurer ce sentiment dans ton cœur. Pourquoi? Parce que nous, on est rassurés quand on fait, quand on vit ce que l'on connaît. Mais quand on touche au domaine de l'inconnu, on se chope les chocottes. Et on n'aime pas l'inconnu. On aime ce qui est connu parce que ça nous rassure. Un exemple très simple, quand vous allez au restaurant, peu par contre sont souvent décisifs à prendre quelque chose de tout nouveau qu'ils ne connaissent pas. Quand des fois j'invite des gens à la maison, je leur dis je vais vous faire un sashimi. Alors il y en a, ils bronchent pas, il y en a déjà, ils deviennent tout blancs. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils se demandent s'ils vont manger ou si on va les manger. Quand on leur dit qu'on a trouvé cette recette sur les îles, ils se demandent. Ça crée une crainte. Et dans chaque situation de notre vie, quand on aborde quelque chose qui est inconnu, ça nous amène dans une certaine crainte et une certaine peur. Et là, il y a quelque chose à travailler dans notre vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à marcher, non par la vue, mais par... Et la foi nécessitera forcément que ce que nous allons faire va s'appuyer sur ce que Dieu va nous dire, mais que nous n'allons pas encore voir. Donc il y aura une notion d'inconnu. Et pourquoi certains n'arrivent jamais à franchir le cap, à faire le pas justement de la foi? Alors que ce soit pour la conversion, que ce soit pour l'engagement avec Dieu, que ce soit pour le baptême d'eau par immersion, que ce soit pour le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit pour la vie de l'Esprit, que ce soit pour les dons spirituels, et pour plein d'autres choses encore que Dieu met à notre disposition. Pourquoi certains ont toujours du mal à franchir ce pas? Parce que c'est justement le pas de l'inconnu. Et à l'instar de Daniel, Dieu nous a révélé par sa parole ce dans quoi il voulait nous voir évoluer. Mais comme pour nous, ça demeure encore de l'inconnu, alors ça suscite de la crainte et de l'angoisse. La crainte et l'angoisse sont contraires à la foi. Et qu'est-ce qui va bannir la crainte et l'angoisse? L'amour. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que l'amour que tu vas avoir pour ton Seigneur, cet amour est tellement profond, cet amour est tellement fort, cet amour est tellement sensible, il est tellement vrai, que à cause de l'amour, tu vas faire confiance. Et tu vas avoir une pleine assurance en ce que te dit ton Seigneur et ton Sauveur. Et ça va nourrir la foi qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ce qui va te permettre de franchir le pas parce que tu vas marcher dans l'inconnu, mais tu sauras que l'inconnu ne sera que pour toi, parce que pour Dieu, tout est déjà connu d'avance. Et comme tu as pleinement confiance en lui, alors ton cœur reste rempli d'assurance. Nous avons besoin de comprendre ces passages, parce que c'est très souvent ce qui bloque l'œuvre de Dieu, entre autres. Ça bloque notre action avec Dieu, ça bloque notre engagement avec lui, ça bloque les œuvres qu'il veut accomplir par nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors d'aujourd'hui, Dieu travaille avec nous et nous travaillons avec lui. Il ne bosse pas tout seul, le gars. Il a besoin de nous. Des fois, on a du mal à le comprendre, mais c'est comme ça. Il a décidé, il a résolu de travailler avec toi et avec moi. Nous, on peut se poser toutes les questions de la terre. Et pourquoi ? Il y en a d'autres plus ceci, il y en a d'autres plus cela. Mais toutes ces questions, lui, il s'en moque complètement parce que de toute façon, il a décidé de bosser avec toi. Alors nous, ça nous dépasse, mais c'est comme ça. Et comme il a décidé de travailler avec nous, d'œuvrer avec nous, il faut que donc nous travaillons avec lui. Et c'est pour ça que dans cette mesure, nous avons besoin de cette mesure de foi et de confiance. Et il a besoin aujourd'hui d'avoir des hommes et des femmes qui vont franchir le pas de la foi, qui vont risquer de marcher dans l'inconnu, parce qu'ils sauront que de toute façon, pour lui, les choses sont connues. Et nous allons les accomplir. Et ce soir, Dieu veut relever un défi. Il veut savoir qui d'entre nous va s'engager avec lui. Il veut savoir qui d'entre nous va relever le défi. Il veut savoir qui va véritablement s'engager. Je parle souvent des désirs, des envies, des rêves que nous pouvons avoir. Et je parle souvent des désirs, des envies, des rêves de ces personnes qui les ont gardés toute leur vie, qui sont morts avec, parce qu'ils ne les ont jamais accomplis. Le peuple d'Israël dans le désert est mort avec des désirs, avec des envies. Lesquels ? Celui d'entrer dans le pays promis. Ah ça, pour en avoir entendu parler, ils en ont entendu parler. Ça, ils en ont entendu parler. Pendant des années, des années, des années, ils ont entendu parler qu'ils allaient rentrer un jour dans le pays promis. Il n'y en a pas un qui est rentré, à part Josué et Caleb. Ils sont morts avec leurs rêves, ils sont morts dans leur désillusion. Ils avaient envie, mais ils n'y sont pas rentrés. Il y a une différence entre avoir envie de quelque chose et de se donner les moyens de les mettre en pratique. Josué a mis en pratique. Pourquoi ? Parce que Josué, qui à l'époque conduisait le peuple d'Israël, a osé marcher par la foi. Il a osé croire dès le début ce qui était impossible. Mais tu ne vas pas aller dans ce pays. Mais il y a des géants, il y a des fils d'Anak. Ils sont immenses, nous on est comme des sauterelles. Jamais on ne pourra entrer dans ce pays, jamais on ne pourra l'avoir. Ils se sont laissés motiver par des paroles négatives. Les paroles négatives se sont accomplies sur leur vie. Ils n'ont jamais vu le pays. Ils ne sont jamais entrés dans le pays. Les deux qui ont vu le pays, ce sont les deux qui, dès le départ, ont cru que ce que Dieu disait, il allait l'accomplir. Et aujourd'hui, Dieu nous lance un défi. Elle nous dit, de quel camp veux-tu faire partie ? Est-ce que tu veux être de cette peuplade qui, pendant des années, ont entendu parler du pays promis, mais ne l'ont jamais vécu ? Ou est-ce que tu veux faire partie de ces deux hommes qui, dès le départ, ils ont cru, dès le départ, ils étaient convaincus. Et dès le départ, à l'instar par exemple de Pierre qui a marché sur les eaux, comme nous parlions dimanche, ils ont osé eux aussi marcher sur les eaux de l'inconnu. Ils ont aussi osé franchir le pas. Parce qu'ils ont fait ce pas de la foi, Dieu les a accompagnés. Très souvent, nous ne voyons pas l'œuvre suivre dans notre vie. Pourquoi ? Exemple. Si tu crois à la guérison divine, mais que tu crois que la guérison divine, admettons, c'est qu'une histoire papier, c'est-à-dire que des histoires que Jésus nous laisse ou que les apôtres nous laissent, et que pour toi, finalement, ce n'est pas vraiment quelque chose de, véritablement vécu. Tu vas parler de la guérison divine, mais tu ne vas jamais la voir en action. Il y a une différence entre ensuite celui qui a entendu parler de la guérison divine, qui croit à la guérison divine, et qui annonce la guérison divine avec conviction et certitude. Parce qu'il ne s'appuie pas sur sa parole, mais il s'appuie sur la parole de Dieu. Parce qu'il est convaincu que ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Et qu'il le fait encore. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Non simplement il va parler avec conviction, mais il va dire maintenant, on va prier, parce qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Il va faire le pas de la foi. Et Dieu répond toujours à la foi. Et parfois, dans nos vies, il y a des décisions à prendre, il y a des orientations. Et ces orientations, ces décisions peuvent nous faire peur, nous inquiéter. Elles peuvent nous induire même parfois dans une telle crainte que nous allons perdre justement tous nos moyens. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de replonger de nouveau nos regards dans les Écritures saintes. Parce que qu'est-ce qui a fortifié Daniel ici? Il le dit ici, que mon Seigneur parle, parce que tu m'as fortifié. La parole qu'il a reçue, la parole qu'il a entendue, cet homme qui était là devant lui, le toucha de nouveau et le fortifia. Tu vas recevoir une direction de Dieu pour ta vie, tu vas recevoir une orientation à prendre, tu vas être saisi d'effroi. Si tu restes dans cette situation-là, tu es démoli, tu ne peux plus avancer. Mais si tu te rapproches de ton Seigneur et qu'à partir de ce moment-là, tu dis, Seigneur, continue à me parler parce que tu vas me fortifier. Alors Dieu va continuer à ouvrir le volet de la vision qu'il a commencé à te donner. Et comme à Josué, il va continuer à te fortifier. Il va continuer à t'encourager. Il va t'encourager en te donnant des paroles précises, claires, nettes. Et tu auras ensuite l'audace d'aller dans ce que tu ne connais pas. Mais non simplement tu auras l'audace d'y aller, mais en plus, tu vas le voir s'accomplir. Et la foi, c'est ça. Et Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont cette foi. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont cette trempe. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont ce courage, qui ont cette foi, qui va au-delà d'eux-mêmes. Et tout simplement, ils croient et ils voient. Parce que Dieu va mettre en pratique et parce que Dieu va les rassurer. Alléluia. Amen. Alors attends-toi à ce que Dieu te parle. Aussi de cette manière-là. Et qu'il te dise des choses. Et que tu crois à ces choses. Que tu te laisses fortifier par ces choses. Et que tu mettes en pratique les choses que lui-même t'aura données. Amen. J'ai l'impression que ça vous a secoué là d'un coup. Hein. Jérémie, un autre exemple. Voilà l'exemple d'un homme qui va servir Dieu dans des situations vraiment très difficiles. Quand vous lisez tout le livre de Jérémie, vous voyez que cet homme a excessivement souffert. Quand il y en a qui aiment le service de Dieu, quand on lit le livre de Jérémie, on aimerait bien que Dieu nous appelle à autre chose. Parce qu'il est passé par des situations vraiment dramatique. Il s'est senti parfois abandonné, complètement délaissé. Et à un moment donné, alors qu'il est dans une situation terrible, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel, Dieu des armées. Jérémie est dans une grande difficulté et il n'y a absolument rien autour de lui qui va lui procurer de la joie. Tout ce qui est autour de lui ne lui procure rien d'autre que du tourment, de la crainte et des angoisses. C'est à l'époque les conditions de sa vie. Une seule chose va lui produire de la joie et de l'allégresse, la parole de Dieu. C'est la seule chose qui va réchauffer son cœur. Et j'aimerais vous dire ce soir que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, les paroles qu'il donne sont une véritable source de bonheur. Tu peux te trouver dans des situations catastrophiques, tu peux passer dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu sens l'oppression autour de toi qui est là. Tout peut te procurer des choses néfastes dans ta vie lorsque tu entends dans ton cœur la parole que Dieu t'adresse, ou que tes regards se plongent dans la parole de Dieu, dans le livre saint, dans la Bible, et que tu commences à laisser ton esprit être alimenté par ce que tu es en train de lire. Alors il y a une puissante onction, il y a une puissante joie, et il y a une puissante allégresse qui est en train de remplir ton cœur. Et ça, c'est surnaturel. Ce n'est pas un effet naturel d'une lecture littéraire, mais c'est une puissante action de Dieu dans notre vie. Et je crois que les miracles ne se manifestent pas uniquement quand nous voyons des choses s'accomplir devant nos yeux. Mais ça, c'est un miracle également, que de sentir la joie de Dieu, que de sentir la présence de Dieu, que de sentir l'allégresse de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, laisse la parole de Dieu toucher ton cœur et tu verras cette source de bonheur qui va jaillir en toi. Tant que nous n'apprenons pas à puiser dans cette source, nous l'ignorons. Et le problème, c'est que nous restons alors dans nos tourments, nous restons dans nos inquiétudes, nous restons dans nos soucis. C'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre à aller puiser cette joie du Seigneur. Et c'est un exercice à accomplir, à faire. Pourquoi lorsque nous avons parlé, là, il y a quelques semaines en arrière, du parler en langue? Eh bien parce que le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, donc de parler en langue, quand nous reprenons les textes, donc de nous édifier nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Nous allons puiser directement à la source. Nous allons directement puiser à celui qui communique cette onction particulière. Et inévitablement, nous sommes restaurés, nous sommes consolés, nous sommes réjouis, parce que Dieu dépose sa paix et sa joie dans notre cœur. Mais ça, tant que tu ne le vis pas, tant que tu ne l'expérimentes pas, tant que tu ne le mets pas en pratique dans ta vie, tu ne pourras jamais en témoigner. Tu ne pourras jamais dire, oui, ça se passe comme ceci ou comme cela, si ça reste pour toi uniquement des mots. Et j'aimerais que les mots deviennent vraiment une pratique maintenant dans ta vie. Et que quand tu passes des moments particuliers, ben oui, tu apprennes à t'approcher de ton Seigneur. Et que tu apprennes à lui parler de cette manière-là. Et que tu apprennes à te lâcher devant lui. Et que tu dises, Seigneur, voilà, ma vie, mon être, mon cœur, devant toi, maintenant. Je laisse derrière moi mon orgueil, ma fierté, tout ce qui nous empêche. Et Dieu sait s'il y a de l'orgueil, de la fierté, de la vanité, des choses qui sont là dans nos vies. Des fois, c'est caché, des fois, c'est sournois, mais c'est présent quand même. On laisse ces choses. On dit, Seigneur, maintenant, je m'approche de toi. Et on rentre dans un contact vraiment intime. Et Dieu va restaurer notre vie. Amen. Donc Dieu parle aussi pour nous restaurer, Dieu parle aussi pour nous consoler, Dieu parle aussi pour déposer la joie dans notre cœur. Alléluia. On a vu la dernière fois David, on a vu Pierre, alors on va passer à l'apôtre Paul, la partie F. Et pour l'apôtre Paul, c'est la parole qui dévoile. Un petit peu avant. J'ai oublié le F alors. Ça ne fait rien, je vais vous le citer. Actes chapitre 9. Vous connaissez ce passage, je vous l'ai dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est arrêté sur... il n'est pas apôtre à l'époque, hein, c'est Saul de Tarse. Il est arrêté sur le chemin de Damas. Et Jésus l'interpelle, Jésus l'arrête, et il lui dit, je suis moi, Je suis Jésus que tu persécutes. » Là, nous voyons une autre situation de la parole qui est donnée. C'est la parole qui va dévoiler. Saul de Tarse avait jusque-là entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler qu'un. C'était la seule chose qu'il connaissait. Mais ce que nous voyons, c'est que son cœur était endurci. Il était lui-même opposé aux choses de Dieu. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne croyait pas en Jésus. Il avait entendu parler du Sauveur, mais il ne marchait pas avec le Sauveur. Son cœur était fermé, son cœur était opposé. Qu'est-ce qui va se passer? En lui adressant cette parole, pour lui dire « Moi, je suis Jésus que tu persécutes », le Seigneur, à ce moment-là, va lui révéler deux choses. Premièrement, il révèle à Saul de Tarse son péché. Première chose. Et la deuxième chose qu'il va révéler, c'est son identité. Et il se révèle pleinement. Et c'est à ce moment-là que Saul de Tarse va réaliser et qu'il va comprendre. C'est souvent par une parole que le Seigneur nous adresse et qui va nous convaincre de péché et qui va nous amener à le connaître véritablement. Et nous avons besoin, nous, de cette expérience-là. Tu as besoin de passer par cette expérience de la révélation. Tu as besoin que dans ta vie, il y ait un jour, il y ait un moment qui va marquer ton cœur, qui va marquer ta vie. Parce que tu sauras que ce jour-là, Dieu s'est révélé à toi. Si tu passes pas par cette expérience-là, alors tu adhères à une opinion. Mais tu n'es pas attaché de cœur. Et tu as besoin que ton cœur soit attaché. Un jour, en Russie, il y avait un homme qui a témoigné de ceci. Et il racontait à un autre communiste comme lui que quand ça allait mal, quand il était découragé, alors il allait voir le tombeau de Lénine, vous savez, qui est sur une table de verre. Et on voit le bonhomme dedans, tout bizarre avec la flotte et tout. Et il disait, cet homme, le fait de le voir, eh bien, ça ravive en moi la flamme du communisme. Et ça me permet de continuer à aller plus loin dans cette voie. Nous n'avons pas un mort à regarder. Nous avons un mort ressuscité. C'est beaucoup plus qu'un tombeau en verre. C'est le Fils de Dieu qui est vivant et qui est à la droite du Père. Cette révélation, tu en as besoin. Tu en as besoin à un moment donné dans ta vie pour te marquer comme au fer rouge, comme à l'encre indélébile, comme à une expérience à un moment donné qui va toucher ta vie. Et puis, on a besoin chaque jour de cette nouvelle révélation. C'est pas simplement une fois de temps en temps. Mais chaque jour de notre vie, tu as besoin que Dieu te révèle, que Dieu te parle. Que Dieu s'adresse à toi. Combien je suis malheureux quand je passe un jour sans que Dieu me parle. C'est-à-dire, parce que certains posent plein de questions, ils vont se dire, mais comment tous les jours il est en contact, tous les jours il lui parle. Tous les jours en contact avec lui, oui. Tous les jours lire ses pensées. Tous les jours lire sa parole. Tous les jours le laisser toucher notre cœur. Tous les jours le laisser s'adresser à nous. Tous les jours le laisser imprégner en nous sa volonté, son œuvre, son action, sa vision, ce qu'il veut accomplir, ce qu'il veut faire. La marque qu'il a produite dans ma vie il y a des années en arrière a produit un feu qui a commencé à brûler. Et chaque jour, j'ai besoin d'alimenter ce feu. Si tu veux continuer à brûler, chaque jour, il faut mettre du bois dans la cheminée. Tu mets pas de bois, tu finis par t'éteindre, et puis il n'y a plus rien. Et là, on a besoin, jour après jour, que cette révélation, de cette parole vienne dans notre vie. Saul de Tarse, il a été saisi sur place. Et quand tu permets à cette parole de te saisir de cette façon-là, ça bouleverse ta vie, ça change ta vie, et tu t'engages dans quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Tu as besoin de prendre du temps pour que cette parole descende dans ton cœur. Tu as besoin de prendre du temps avec ton Seigneur. Tu as besoin de laisser ton cœur s'ouvrir pleinement et se disposer à ce que ce soit la véritable parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes trompés parfois. L'ennemi cherche à nous détourner. L'ennemi cherche à mentir. L'ennemi cherche à nous tromper. L'ennemi, le père du mensonge, cherche à nous mentir jour après jour et essayer de nous induire en erreur. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être exercés à marcher avec Dieu, à entendre sa voix. Vous remarquez une chose, c'est que dans tous les exemples que nous avons pris, les 5 ou 6 ou 7, et nous allons terminer avec un dernier, quand Dieu a parlé, ensuite il a accompli quelque chose. Toujours. L'œuvre de Dieu s'est accomplie. Il n'a jamais laissé une parole en suspens. Mais la chose est arrivée. Et la vie de l'individu, la vie de la personne a commencé. Même si ça s'est accompli bien plus tard, il y a une œuvre qui a commencé sur le moment. Et ensuite elle a continué. Et elle a produit des fruits. Amen. Quand Dieu parle dans notre vie, il produit des fruits. C'est son objectif. Parce qu'il veut nous voir grandir et évoluer. Et dernier exemple, s'il y est. Vas-y, passe un coup. Voilà. Cette femme courbée. On a commencé avec une femme, on termine avec une femme. Bien, non ? Bon, on n'a rien. Ici, ce qui est beau, c'est que sur une parole, Dieu va guérir une femme. La parole qui guérit. Lorsqu'il la vit, la Bible nous dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » J'ai souligné « tu es ». Et j'aimerais que vous le souligniez dans votre Bible pour ceux qui l'ont. Alors pourquoi cela ? Parce que lorsque Jésus dit « Tu es », alors avec la même proclamation, avec la même certitude, avec la même conviction, tu peux dire « Je suis ». Eh ben, dis donc. T'as du job, hein. À chaque fois que Jésus dit « tu es », toujours il y a sous-entendu « nous sommes aussi également ». Nous sommes. Éphésiens 1 va nous dire ceci, je ne l'ai pas noté. Vous lirez chez vous. Éphésiens 1 dit que nous sommes déliés du péché. C'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens. Éphésiens 1 nous dit également que nous sommes pardonnés. Éphésiens 1 nous rappelle également que nous sommes justifiés et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il affirme ces choses. Il dit « tu es justifié », il dit « tu es pardonné », il dit « tu es béni », et tu n'es pas béni de n'importe quoi, il est dit « tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». En lisant ces paroles, ça doit réjouir ton cœur et tu dois dire alors « je suis ». Et quand tu te lèves le matin, ben, tu n'auras plus le trou noir, tu seras plus morose, tu seras plus découragé. Mais quand tu commences à te lever le matin et que...
avant de prendre ton café, ta cigarette, tout ça, la première chose que tu prends, c'est Éphésiens 1. Et que tu commences à proclamer « Je suis justifié, je suis pardonné, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » C'est des choses qui vont arriver dans cette journée-là. Oh, réveille-toi, toi qui dors. C'est des choses qui vont arriver aujourd'hui. Elles sont pour toi, ces paroles. Est-ce que vous allez comprendre enfin qu'il faut croire à cette parole? C'est comme ça que vous allez la voir s'appliquer dans votre vie. Tant que vous les prenez que d'une manière littéraire en disant « c'est chouette ça,
c'est un beau verset, je vais le noter, le souligner. Et... »
Non, proclame-le sur ta vie ce verset. Proclame-le sur toi. C'est pas nous qui l'inventons, c'est Jésus lui-même qui nous dit « tu es justifié maintenant à cause du sang de Jésus-Christ. Tu es pardonné. Le diable cherche à t'accuser, mais moi Jésus te dis « je t'ai pardonné ». Tu cherches à être béni, mais Jésus te dit, je t'ai béni déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lorsque je me lève le matin, maintenant, je dis, Seigneur, je sais que ta gloire remplit l'univers. Mais ce qui m'importe, c'est que ta gloire remplisse mon cœur et ma vie et ma journée aujourd'hui. Et c'est comme ça que je prie maintenant tous les matins. Parce que je m'en moque d'une certaine manière, entre guillemets, que la gloire aille chez les autres. Moi, je la veux pour moi et pour ma vie. Je veux que ça soit mon partage et que vous en bénéficiez aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ces choses, elles sont pour nous. Mais si nous ne les attribuons pas, nous les vivrons jamais. La foi, c'est de croire ce que nous n'avons pas encore. Mais parce que nous proclamons sa parole, parce que nous y croyons, alors nous allons le recevoir. Et cette femme, Jésus lui dit « Tu es ». Maintenant, quand Jésus me dit « Tu es », je sais que je suis. C'est pour moi, c'est pour ma vie, et je vais m'attacher à cette parole. Et je ne vais pas me défaire de cette parole, parce que c'est une parole pour moi de bénédiction. Et je crois en cette parole. Et je veux qu'elle, non simplement y croire, mais je veux la voir s'accomplir dans ma vie. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont déterminés à voir sa parole s'accomplir dans sa vie. Et si tu démontres à Dieu que tu es déterminé pour voir sa parole s'accomplir, je peux t'assurer d'une chose, c'est que de partout où tu iras, tu verras sa parole s'accomplir dans ta vie. Et que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit avec la sagesse et l'intelligence que Dieu va nous donner, tu vas voir sa gloire. Mais la chose essentielle que nous avons besoin de vivre, c'est de comprendre que Dieu nous parle et que nous nous attachons à cette parole, que nous proclamons cette parole et que nous vivons cette parole. Cette femme a cru à cette parole. Elle n'a pas dit, non, mais tu me parles simplement, tu ne fais rien, tu agites même pas de l'encens autour de moi, il n'y a aucune manifestation bizarre. Tu me dis simplement, je suis guéri, qu'est-ce qui me prouve que je suis guéri? Nous, on calcule beaucoup, on réfléchit beaucoup. Et le problème, c'est que ça enlève la foi de notre cœur. Pourquoi Jésus compare le royaume des cieux aux petits-enfants? Pourquoi il dit, ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui seront semblables aux petits-enfants? Parce que les mômes, ils réfléchissent beaucoup moins que nous. Ils sont beaucoup moins, excusez-moi, bêtes que nous. Tu leur dis quelque chose, ils croient. Et non simplement ils croient, mais ils voient. Et c'est pour ça que le royaume des cieux est leur partage. C'est pour ça que très souvent nous voyons des gens qui sont simples, parfois même pas instruits, saisir la parole de Dieu. Quand je discute avec ma grand-mère, quand je connais son niveau d'instruction, quand je sais qu'elle n'arrive même pas à prononcer mercredi correctement, des fois, je me demande comment elle a pu faire pour comprendre la parole de Dieu. Mais il y a une chose qu'elle a compris. C'est la foi qu'elle devait mettre en cette parole qu'elle entendait. Et à cause simplement de cette foi, elle est incapable même de vous tenir deux chapitres, elle est incapable de vous dire ce qui se passe dans le Nouveau Testament, Mais elle a compris qu'une seule chose. C'est que si elle mettait sa foi en celui qui lui parle, et qu'elle croit que celui qui parle accomplit ce qu'il dit, alors elle le verra s'accomplir.
Aujourd'hui, elle a des dizaines de témoignages à me donner de ce qui s'est passé du moment de sa conversion jusqu'à aujourd'hui. Tout ce cheminement. Hein, c'est vrai qu'elle n'est pas capable de vous parler de la doctrine, de la théologie. Elle est incapable de vous apporter toutes ces choses-là. Et même le plan du salut, elle doit le connaître approximativement. Mais la seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle a Jésus dans son cœur. Et que c'est le seul Seigneur et son seul Sauveur. Et ça, ça a bouleversé son existence parce que Dieu s'est adressé à elle et elle a cru en cette parole. Elle a vu des cancers être maudits et partir de sa vie. Elle a vu des plaies infectées dans sa jambe alors qu'il n'y avait pas de médecin, qu'il n'y avait rien. Et simplement, au nom de Jésus, à cause de la prière, la nuit s'est passée, le pus a coulé, le lendemain matin, la plaie était complètement refermée. Et je peux multiplier comme ça les exemples. Tout simplement parce qu'elle a cru à la parole. Elle croyait aux serviteurs de Dieu. Elle croyait à l'onction que Dieu mettait sur les serviteurs de Dieu, sur le ministère. Elle croyait. Quand j'ai travaillé dans Polynésie française pendant plusieurs mois, que j'ai visité les églises là-bas, c'est ce qui a marqué ma vie. J'ai rencontré là-bas des gens, des hommes et des femmes, qui n'étaient pas tous d'un niveau très instruit, très élevé. Mais ils avaient la foi qui débordait de leur cœur et ils croyaient à la parole de Dieu. Ils croyaient à l'onction du Saint-Esprit. Ils croyaient au ministère. Ce qui a fait qu'en moins de 6 mois, on a dénombré pratiquement dans les églises dans lesquelles on est passé plus de 45 guérisons divines. 45 actions de Dieu miraculeuses et des choses extraordinaires. Je me souviens encore de ces 2 enfants qui sont nés, et l'un est né et il lui manquait l'intestin et tous les muscles pour tenir les organes dans le ventre, les jumeaux. Et l'enfant n'avait pas d'anus non plus, ils lui ont mis une poche en plastique à l'extérieur. Il n'était pratiquement pas viable et puis ensuite ils ont dit peut-être il va tenir quelques mois. La fille qui venait de mettre au monde ses 2 enfants avait 18 ans. Ne croyait pas en Dieu. Et l'homme avec qui elle avait fait ses enfants était un alcoolique et un drogué. La situation était désespérée. La belle-mère lui a dit un jour, est-ce que tu veux simplement qu'au moins on puisse en parler à l'église et que l'église puisse prier pour cela? Et elle a seulement cru à cette parole-là. Parce que tout espoir était fini pour elle. La chose a duré 1 mois. Ils ont organisé un voyage sanitaire sur Paris où ils ont prévu d'opérer l'enfant qui avait une hernie en plus de ses problèmes. Et ils ont dit on va voir s'il est viable et on va essayer de l'opérer, de faire ce qu'on peut faire pour cet enfant, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. L'Église a prié, a jeûné pour cela. L'Église a cru que ce qui était écrit pouvait s'accomplir. Lorsque l'enfant est arrivé à Paris, au bout de quelques jours, en laissant le décalage horaire, ils ont fait les radios, les examens, IRM, etc. Puis ils ont ouvert le ventre de l'enfant pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et à leur grande surprise, l'intestin qui n'existait pas était là. Et les muscles qui n'existaient pas pour tenir tous les autres organes étaient là également. Tout était dans le ventre de l'enfant. Ils ont refermé. La seule chose qu'ils ont fait, ils ont raccordé l'intestin, ils ont raccordé l'anus. C'est la seule chose qu'ils ont fait. Ils ont dit l'enfant est viable. Il est complètement guéri. On ne comprend rien. Ils ont cru, tout simplement, à la parole. Ils ont cru que ça pouvait s'accomplir. Parce qu'ils ont cru, ils l'ont vu s'accomplir. Tout simplement. La foi, c'est ça. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. C'est ça que nous avons besoin, de communiquer aux autres. Et vous savez pourquoi la parole de Dieu s'est propagée là-bas très vite sur ces îles? Parce que tous parlaient de ces différentes expériences. Tous parlaient à leurs voisins, à leurs voisines, de ce que Jésus faisait. Oh, ils n'avaient pas un grand discours religieux. Mais il disait tout simplement ce que Christ avaient accompli par la foi qu'ils avaient en lui. Parce qu'ils croyaient que Dieu parlait aujourd'hui et qu'il accomplissait sa parole. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Alors je conclue. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Le langage de la foi est tout différent de celui de la loi. Pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Christ n'est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit-il donc? Écoutez bien ceci. La parole de Dieu est toute proche de toi. La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. La foi en un Dieu qui parle. Ça se conclut simplement par ça. Vous avez compris que c'était dans une autre version. Langage de la foi. La parole de Dieu, elle est toute proche de toi. Tu vas certainement souvent chercher des choses midi à 14h, mais la parole de Dieu, elle est là. Elle est à proximité. Elle est proche. Il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. Alléluia. Je vous demande aux musiciens quelques instants de venir, s'il vous plaît. Et nous allons terminer ces moments. J'aimerais que nous puissions terminer ces instants et cette série de ces trois prédications sur Dieu parle, dimanche matin, dimanche après-midi et ce soir. Et j'aimerais que nous terminions par une prière particulière. J'aimerais que nous puissions demander les uns et les autres, ce soir, ceux qui le veulent bien sûr. Non pas que Dieu nous parle, parce que cela il est déjà disposé à le faire. Mais que nous puissions dire au Seigneur ce soir, dispose nos oreilles et nos cœurs à l'écoute de ta parole. Exerce nos oreilles et nos cœurs à recevoir ta parole. Dépose dans nos cœurs cette parole. Et apprends-nous. Enseigne-nous à te recevoir. Habitue nos cœurs et nos oreilles à t'entendre. Habitue-nous au doux son de ta voix. Qu'il puisse chasser ce soir dans nos cœurs toutes les craintes, les timidités, toutes les angoisses, tous les doutes, toute l'incrédulité, que toutes ces choses-là puissent être mises dehors maintenant. Et que seule demeure la foi en sa parole. Peut-être que quelqu'un aura besoin de demander ce soir au Seigneur, donne-moi de lire ta parole comme une parole de révélation. Ce qu'on appelle le rhéma. Une parole qui se révèle. Une parole qui produit un effet, qui produit une action dans les cœurs. J'aimerais que ce soir on termine par cette prière. Que chacun d'entre nous, pendant quelques instants, quelques moments, quelques secondes, quelques minutes, nous puissions nous approcher de Dieu et de le prier de la sorte. Et je crois que si tu pries comme cela avec foi, Dieu va te répondre et tu vas voir. Et les expériences vont commencer et tu seras étonné. Tu ne chercheras plus à accomplir ce que Christ a lui-même accompli déjà à la croix. L'évangile, c'est la prédication de la foi qui permet de recevoir Dieu. Et ce dont tu as besoin ce soir, c'est de recevoir Dieu. Par la foi en sa parole. Nous allons prendre quelques instants maintenant. J'aimerais inviter ceux qui le désirent. Je ne vais pas vous demander de vous lever, de lever la main, tout ça, non, va. Simplement, là où vous êtes, fermons nos yeux et nous prions maintenant. Et nous demandons au Seigneur son action. Prenons quelques minutes pour prier maintenant et réclamer à Dieu ces choses. Seigneur, les oreilles et les cœurs de mes frères et de mes sœurs, à entendre ta voix, cette voix qui vient d'en haut, cette voix qui est véritable, mais dans leur cœur, cette voix, que si simplement ils croient, cette parole, s'il commence à proclamer la parole sur leur vie, que s'il commence à déclarer des paroles de foi, des promesses de Dieu, des paroles qui affirment ce que tu as accompli, ce que tu as fait et ce que tu fais encore aujourd'hui. Alors ils vont voir ces choses s'accomplir dans leur existence. Et leur vie ne sera plus la même, parce que leur vie va devenir une vie surnaturelle. Le surnaturel de Dieu va devenir leur partage, parce que à ta parole est attaché les fruits. Et lorsque ta parole s'accomplit, ce n'est pas simplement un petit encouragement qui nous est donné, mais c'est un fruit mûr que tu donnes. Et nous voulons maintenant des fruits qui sont mûrs, des fruits que tu as préparés d'avance pour nous. Je te prie pour faire entrer l'Église dans cette dimension maintenant, Seigneur. Fais entrer l'Église d'Andrézieux dans cette dimension de foi. Dans cette dimension de confiance. Fais entrer ton Église ce soir dans cette dimension d'assurance. Fais entrer ton Église dans cette onction toute particulière. Fais rentrer ton Église dans cette foi surnaturelle qui fait mouvoir ton bras sur n'importe quelle situation. N'importe quel événement. Fais entrer ton Église dans ces choses maintenant, Seigneur. Et donnez de voir jour après jour maintenant de quelle manière tu vas accorder tes bénédictions et tes grâces. Nous ne voulons plus voir simplement ta gloire chez les autres. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire dans notre église. Nous voulons voir ta gloire dans notre maison. Nous voulons voir ta gloire dans notre foyer. Nous voulons voir ta gloire dans notre couple. Nous voulons voir ta gloire avec nos enfants. Nous voulons voir ta gloire dans notre village. Nous voulons voir ta gloire dans nos immeubles. Nous voulons voir ta gloire avec nos voisins. Nous voulons voir ta gloire avec nos collègues de travail.
Nous voulons voir ta gloire de partout où nous nous trouverons. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons demeurer jour après jour les messagers de Dieu, les envoyés de Dieu, avec l'onction particulière que tu vas mettre sur nos vies. Nous voulons chaque jour être restaurés par cette foi. Nous voulons que chaque jour tu nous renouvelles dans cette foi. Nous voulons, comme Daniel, que chaque jour tu nous fortifies à travers tes paroles. Même si parfois les choses que nous allons voir, les choses que nous allons vivre, les choses que nous allons peut-être même parfois entendre de toi, vont peut-être nous effrayer, nous faire peur, parce qu'elles seront que de l'inconnu. Voulons y mettre une pleine et entière confiance et une pleine foi, parce que notre assurance est en toi, Seigneur, et que nous savons que c'est toi qui as résolu ces choses dans notre vie. Alors avec toi, Seigneur, nous allons commencer à marcher sur l'eau. Et nous allons voir ta gloire. Nous allons être touchés par toi et par ton œuvre merveilleuse. Et dans ce flot, tu vas entraîner avec nous quantité d'âmes, d'hommes et de femmes qui ne connaîtront pas ton nom mais qui vont te découvrir et qui vont saisir tout simplement la foi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Communique cela ce soir à mes frères et à mes sœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Lever ensemble et terminer cette soirée en disant simplement: Dieu, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Descendre au milieu de nous.